Excusez-moi. C'est le réveil qui n'a pas bien marché. La vieille casserole. Parce que je suis réveillé depuis 2 heures. Et par vertu, je restais couché. Alors, c'est d'autant plus humiliant. Et la vertu, dans ce cas-là, est mauvaise conseillère. Parce qu'il y avait une raison technique. Le réveil ne marchait pas. Alors, je réponds à des questions assez vite parce que c'est pas. Vous avez parlé de la substance. Pouvez-vous repréciser ce que c'est ? Vous allez mettre au moins 20 ans avant de comprendre ce que c'est. Alors, croyez à l'autorité d'Aristote. Parce que vous n'allez pas découvrir la substance comme ça en vous réveillant en retard. La substance est un principe. Avez-vous compris la différence entre un principe et une loi ? C'est la première chose que vous devez faire. Parce que des quantités prennent la substance pour une loi. Donc la première chose qu'on doit faire, c'est d'arriver à distinguer, et à ça, je vais dire comme ce vieux professeur, le Perdeau me rappelait tout le temps, ce que son vieux professeur de métaphysique disait, je veux bien vous donner l'intelligible, mais pas l'intelligence. C'est très joli. Je veux bien vous donner l'intelligible. Bon, la substance est un principe. Un principe d'être. De ce qui est. Bon, le principe n'est pas une loi. La grande confusion des positivistes, c'est de considérer que la loi est un principe. Alors, nous sommes nourris de ça. Nous considérons que les lois sont des principes. Pas du tout, la loi... Elle est faite par l'homme. Le principe, il vient de la réalité. Le principe, il est dans la réalité. Tandis que la loi est dans votre esprit. Vous l'avez fabriquée. C'est le fruit de nos recherches, la loi scientifique, de la science, mais pas de la sagesse. Le dépassement de la loi, c'est la sagesse. Alors, il faut du temps, je comprends. Et on a raison. Vous avez raison de poser des questions. Est-il possible de le faire à partir du sujet ? Le sujet n'est pas la substance. Pour les modernes, le sujet est substance. Parce que le principe est une loi. Alors le sujet logique, ce qui reçoit toutes les attributions, c'est considéré comme, justement, comme la substance. Le sujet, c'est quoi ? Mais je suis sujet de mes opérations. Mais c'est très concret. Je suis sujet de mes opérations. Et alors, mon sujet... Il implique la substance. Le sujet implique la substance, mais n'est pas la substance. Le principe, c'est ce au-delà de quoi mon intelligence ne peut pas aller. ce qui s'impose à moi. Ça s'impose. Le principe, il est évident. Pour l'intelligence. Pas pour l'imagination, mais pour l'intelligence. Le sujet, mais c'est logique. Pierre est sage. Pierre est sujet. Bon, Pierre, il implique la substance, c'est sûr. Mais c'est la substance est au niveau du principe. Le sujet n'est pas au sujet du principe, c'est la réalité qui est capable de supporter des accidents, de supporter des propriétés. C'est logique, si vous voulez. La substance, est-ce le sujet ? Oui. C'est la grande confusion des modernes. On confond la logique et la métaphysique. Évidemment, c'est plus facile d'atteindre la logique que la métaphysique. La logique, il suffit de réfléchir sur nos discussions et nous discutons, et c'est la logique. Alors, il y a des lois de logique, mais il n'y a pas de principe. Il y a des lois de logique. Parce que la logique, je la fais. C'est mon intelligence qui fait la logique. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas logicien. Heureusement. La logique, c'est une œuvre de l'intelligence. Ars, artium. C'est, pour saint Thomas, c'est l'art suprême, la logique. L'art de l'intelligence. C'est mon intelligence rationnelle qui avance d'une manière logique. Mon intelligence contemplative est au-delà de la logique. La logique ne peut rien nous dire de Dieu. Elle nous dit l'homme, ou la puce, ou l'animal, tout ce qui est générique. Ah oui, ce sont des questions fondamentales, cette différence entre le point de vue de la loi et du principe, différence entre le sujet et la substance. Vous avez dit, un enfant n'est pas une personne. Oui, j'ai dit ça pour vous montrer qu'on devient une personne en raison de la finalité. Un enfant n'a pas beaucoup de finalité. Quand un enfant crie parce qu'il a faim et soif, il n'a pas beaucoup de finalité. La finalité commence lorsqu'on devient responsable de ses actes. Tant que vous n'êtes pas responsable de vos actes, vous n'avez pas saisi la finalité. Alors, oui, tout ce qui se fait instinctivement n'est pas la finalité. Les scolastiques aimaient dire le fricare barbam. Le fricare barbam, c'est instinctivement, on se frotte d'abord. Qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas. C'est un geste instinctif. On a tous des gestes instinctifs. La différence entre le geste humain et le geste de l'homme, c'est une distinction aussi capitale à faire, ça. Au point de vue moral. Tout ce que vous faites, c'est un geste d'homme. Tout ce que vous faites n'est pas nécessairement un geste humain. Vous vous réveillez en bâillant. Ce n'est pas un geste humain. C'est un geste d'homme. Comme le petit chien, le petit chat, il se réveille en Fais une grimace. Donc, un enfant n'est pas une personne, comprenez bien. Vous voyez, c'est comme quand on retire des phrases de tout le contexte, on peut faire dire n'importe quoi. Un enfant n'est pas une personne. Un enfant devient une personne. Il est une personne, radicalement. Il a tout ce qu'il faut pour être une personne. Donc il est une personne, implicitement, mais pas explicitement. Cela est vrai dans le sens où la personnalité n'est pas encore forgée. Bon, alors la personnalité, là, c'est bien la personne. Qu'est-ce que c'est que la personnalité dans le langage? C'est ce qui est une personne, ce par quoi une personne est une personne, sa personnalité. C'est l'abstrait. Vous voyez, homme et humanité. Quelle différence entre homme et humanité? La différence entre le concret et l'abstrait. C'est aussi très élémentaire, mais très important de comprendre la différence entre le concret dans notre langage et l'abstrait. Et bon, vous employez constamment le concret et l'abstrait dans votre langage, mais vous ne savez pas pourquoi. Réfléchissez sur personne et personnalité. Personnalité, ce par quoi la personne est personne. Personnalité, c'est l'abstrait. Ce par quoi la personne est personne. Elle est personne par sa finalité. Tant que sa finalité n'est pas explicitée en acte, vous n'avez pas affaire à une personne, vous avez affaire à un enfant. Mais l'enfant contient en lui, virtuellement, tout ce qu'il faut pour être une personne. Donc, il est une personne, mais il ne l'est pas manifesté. Elle ne s'explique pas encore. En disant cela, ne confondons-nous pas personnalité et personne. Non, l'abstrait du concret. Personnalité, qu'est-ce que c'est que la personnalité? Ce par quoi on est une personne. Alors, dans le langage courant, personnalité a pris un sens très psychologique. Oh, quelle belle personnalité! C'est très psychologique. Si vous prenez personnalité au sens philosophique, c'est parallèle à personne, mais c'est l'abstrait de la personne. Or, le passage du concret à l'abstrait dans votre langage, qu'est-ce que ça signifie? Vous employez sûrement l'abstrait et le concret. Quelle différence y a-t-il quand vous êtes dans l'abstrait ou dans le concret? L'abstrait, c'est déjà une réflexion, ce par quoi la personne est personne. Personnalité. Alors que personnalité est pris très souvent dans un point de vue psychologique. Alors à ce moment-là, c'est le langage courant. C'est plutôt un langage philosophique. C'est le langage courant. Enfin, l'homme donne-t-il un sens à son existence, ou le découvre-t-il? La finalité existe-t-elle parce que je la connais, ou bien est-ce que je la connais parce qu'elle existe? Ça, c'est toute la réalité des principes. À la différence de la loi. La loi est faite par l'esprit. C'est l'esprit qui a fait la loi. La loi n'existe pas dans la réalité. elle existe dans une réalité que je connais. Je saisis des relations nécessaires, des relations qu'on retrouve tout le temps. Saisir cette relation, c'est l'intelligence qui saisit la relation. Elle existe fondamentalement, mais seulement fondamentalement. Tandis que le principe existe en acte. C'est pas parce que je connais la substance que la substance existe. Je connais la substance parce que elle est le principe de détermination d'un être. Le canard est canard par lui-même, pas parce que vous le connaissez. Très souvent, nous restons à ce niveau-là, du nominalisme. Et on ne voit pas que la réalité est avant. L'intelligence consiste à découvrir ce qui est. Non pas du tout à inventer ce qui est, à donner l'intelligibilité à ce qui est. Non, c'est l'aider à découvrir. C'est ça la vérité. On est resté là. Hein. Au fond, une personne implique la capacité de rechercher la vérité au niveau spéculatif et au niveau pratique. Une personne a la différence tout simplement d'un individu. Un individu n'a jamais découvert la vérité, peu importe, il reste un individu. Mais quelqu'un qui n'a jamais découvert la vérité est-il une personne humaine ? Quelqu'un qui n'a jamais exercer son intelligence jusqu'au bout, est-il une personne ? La personne, c'est donc le développement de ce qui, en moi, est de plus profond, ce qui caractérise mon être. Une vache, si grosse qu'elle soit, qui a passé du veau à la vache, est-elle une personne ? Pourquoi elle n'est pas une personne ? Elle existe, elle est un individu, c'est bien évident, mais elle n'est pas une personne. Une personne caractérise donc une manière d'exister et d'opérer. La personne humaine existe humainement, c'est-à-dire par la connaissance et par l'amour. Vous voyez donc, c'est ça qui est très subtil dans la personne. Hein. C'est que la personne, c'est pas un principe, c'est une manière d'être. Une manière d'exister. Donc, radicalement, la substance me donne l'autonomie. Et la personne, c'est cette autonomie que j'acquiers et que j'ai au point de vue de l'être par ma substance. La personne implique le point de vue de l'intelligence. À la différence des êtres qui ne sont pas une personne, j'agis en connaissance. connaissance spéculative ou connaissance pratique. Dès que vous ne cherchez plus la vérité, vous diminuez le développement de votre personne. Tout ce que vous faites inconsciemment, en dormant, est-ce que c'est personnel ? C'est individuel. Vous ne dormez pas comme une personne. Si vous cherchez à voir comment une personne dort, à la différence de quelqu'un qui n'est pas une personne, vous n'allez jamais dormir. Dormir ou être éveillé, c'est individuel. C'est pas personnel. Être éveillé, une personne est éveillée. Donc elle est consciente. Elle est consciente de ce qu'elle fait. Si elle n'est pas consciente de ce qu'elle fait, c'est pas personnel. Et là, c'est très intéressant de voir quand il y a, par exemple, un crime, de voir dans quelle mesure la personne qui est accusée de ce crime est consciente. C'est la première chose que font les avocats. Si cette personne n'est pas consciente, si elle a fait ça dans un accès de colère où elle n'est plus consciente de ses actes, la culpabilité de sa faute est beaucoup moins grande. Mais il faut avoir conscience. Une personne a conscience de ses actes. Je crois que ça, vous êtes tous d'accord. Une personne a conscience. Or, qu'est-ce que c'est que la conscience ? C'est la connaissance. La connaissance de soi et de ses capacités. Alors, à la place de parler conscience, j'aime mieux dire une recherche de vérité. Ça, c'est objectif. La conscience est subjective. On est plus ou moins conscient. Il y a des moments où notre conscience est très éveillée et des moments où notre conscience n'est pas éveillée du tout. Il y a du plus et du moins dans la conscience. Et ça provient de quoi, ça ? Ce plus et moins dans la conscience ? De la connaissance. La conscience est une propriété de ma connaissance. C'est pas ma connaissance. Ma connaissance, c'est quelque chose de plus radical. Mais ma connaissance humaine, j'en ai conscience. Et il y a des actes humains dont j'ai peu conscience. Je suis un petit peu ivre. La frontière, hein. Juste un verre de plus, oh, ça y est. Je suis plus entièrement conscient. Je suis partiellement conscient. Je sens ma limite. Donc, la conscience est une propriété de votre connaissance. Mais j'aime mieux, lorsqu'il s'agit justement de voir qu'est-ce qui constitue un acte personnel, j'aime mieux dire l'aspect objectif de la vérité, l'aspect subjectif de la conscience. Normalement, vous avez conscience de vos actes. Plus vos actes atteignent la vérité, plus votre conscience est éveillée. Qu'est-ce qui vient diminuer votre conscience ? C'est pas du tout votre intelligence, c'est votre imagination. celui qui commençait un petit peu ivre, le passage entre les deux, hein, c'est l'imagination. L'imagination est excitée par la boisson. Et l'imagination, quand elle est par trop excitée, empêche la vraie recherche de vérité. Et on a tous conscience qu'on travaille la philosophie. Puis, quand on est très fatigué le soir, après une journée où on a travaillé beaucoup, très fatigué, on voit que on travaille encore, mais matériellement, on n'a plus l'acuité, la même pénétration de la recherche de vérité. Et on sent bien dans notre conscience que nous ne sommes pas entièrement à notre travail de philosophie. Alors, on a le temps, on continue de travailler, on a un mal de tête qui nous empêche d'avoir la lucidité qu'on a ordinairement, mais on continue de travailler. Vous voyez, distinguez bien connaissance et conscience, et essayez de comprendre la différence entre les deux. Toute conscience implique connaissance. Toute connaissance n'implique pas toujours conscience. Il faut arriver à discerner les deux. Bon, un premier discernement qui est très important. Je ne définis pas la personne par la conscience, mais par la connaissance, comme élément. Et je fais la distinction entre la connaissance pratique et la connaissance spéculative. La métaphysique est-elle nécessaire pour être une personne ? Voilà la bonne question, hein. On dit, il faut, pour qu'il y ait personne, il faut une autonomie, il faut une connaissance. Alors, jusqu'où cette connaissance ? La métaphysique augmente votre connaissance, augmente votre conscience. Est-ce que la métaphysique est nécessaire pour qu'il y ait personne ? Je ne dis pas, je ne dis pas que second élément, c'est la métaphysique. Et ça, c'est très important. Posez-vous la question et voyez comment vous allez répondre. La recherche de la vérité est nécessaire à la personne humaine. Ça, oui. Donc, quelqu'un qui s'en fiche pas mal de la vérité, qui n'y sort aucune importance, il suffit de mettre des choses de telle manière pour que ça brille, pour que les gens soient dupes et se laissent prendre. Non, la recherche de vérité est nécessaire. Et des deux vérités, vérité pratique et vérité spéculative. Mais la différence pour les vérités spéculatives, c'est que je sais que la métaphysique existe, mais je suis sur les bords. Je n'ai pas encore compris ce que c'était que la substance. pas encore compris ce que c'est que l'acte. Je sens qu'il y a quelque chose, je ne sais pas. Alors, toute notre vie, nous sommes des étudiants dans l'ordre de la vérité. Le jour où vous dites, ah, maintenant ça y est, je connais la vérité complètement. Ce jour-là, êtes-vous encore une personne ? C'est très important. Ou êtes-vous tout simplement un orgueilleux fini ? Est-ce que la personne est d'être un orgueilleux ? Ou est-ce que l'orgueil diminue ma personnalité? Oui, c'est sans toutes ces petites questions-là que vous devez répondre si vous voulez vraiment creuser qu'est-ce que c'est que la personne. Je ne vais pas dire, et je ne dirai jamais, que pour être une personne, il faut connaître la métaphysique. Non. Mais il faut reconnaître que la métaphysique existe. Un positiviste, Auguste Comte, un positiviste peut-il être une personne ? Peut-il être une personne humaine ? Non. Parce que, au fond, il ramène toutes les recherches de son intelligence à son expérience, à l'expérimentation de l'homme. Et donc, lui-même limite la vérité. Il limite la vérité à ce qu'il connaît. Limiter la vérité à ce que je connais, c'est moi-même qui m'empêche d'être une personne. Et on le sent très bien, ça. C'est assommant de parler à quelqu'un qui ramène tout, toute vérité, toute recherche de vérité à ce qu'il connaît. Comme s'il était la mesure de la réalité. Alors celui qui se dit mesure de la vérité ne peut pas être une personne. Vous voyez, essayez par ces expériences toutes simples que nous avons tous, dire mais est-ce que c'est encore une personne ? Donc, la métaphysique est-elle nécessaire à la personne ? Non, pas nécessairement, mais il faut la respecter. Il faut savoir qu'elle existe. Celui qui nierait la métaphysique en disant qu'il n'y a que la science, il ne peut pas être une personne humaine. C'est terrible, ça. Hein ? Un positiviste, Auguste Comte, est-il une personne ? Il peut être un grand savant, mais il n'est pas une personne. Parce qu'il ramène toute connaissance à sa connaissance scientifique. Tandis qu'au contraire, un homme qui est un savant, qui sait que la science est intéressante, mais que la science ne dit pas tout. Elle est à dimension humaine. Et qu'il y a un autre type de connaissance qui me permet d'affirmer l'existence d'une réalité première ou qui me fait chercher cette existence et qui fait que je m'appuie alors en disant oui, certains ont dit cela. Moi, je ne l'ai pas encore découvert, mais certains hommes l'ont dit, des sages. On respecte que la sagesse existe. La sagesse, c'est l'homme qui l'a découvert, mais elle me montre la réalité dans ce qu'elle a de plus profond. Refuser de chercher la réalité en tant qu'elle est, en tant qu'elle est être, en tant qu'elle existe, en tant qu'elle m'échappe, c'est m'arrêter à moi-même. Je deviens la mesure de toute chose. Quand je deviens la mesure de toute chose, je ne peux pas être une personne. Ça, réfléchissez beaucoup à ça, c'est très très important ça. C'est très important pour nous de comprendre comment l'humanité, en refusant la sagesse, se diminue elle-même et se condamne à n'être plus une personne humaine.